8h13 sur Europe 1, votre invitée Sonia Mabrouk est la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur chargée de la citoyenneté.
Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Marlène Schiappa.
Bonjour, merci.
Lors du débat hier des Républicains sur Europe 1 et CNews, il y avait des nuances, il y avait quelques différences entre les candidats. Mais alors, s'il y a bien une chose sur laquelle ils étaient tous d'accord, c'est votre bilan sécuritaire. Absence de résultats, manque de volonté, bref, selon les LR, votre bilan c'est votre boulet.
Ouais, écoutez, moi j'ai regardé une grande partie du débat hier, je vous avouerai que j'ai fini par éteindre vers 23h10, mais vous parlez de nuances, moi je trouve que le débat LR hier c'était 50 nuances d'Éric Zemmour, parce qu'on a parlé immigration principalement, et la plupart des candidats ont passé leur temps à courir après les propositions d'Éric Zemmour, en tenant y compris des propos moi qui m'ont vraiment choquée.
Lesquels ?
Quand on a entendu par exemple un des candidats dire qu'il y avait une civilisation supérieure à une autre, moi je considère que ce sont des propos qui ne sont pas dignes d'une personne qui veut être chef d'État d'une grande puissance mondiale. Nous avons une candidate.
Précisez quand même que c'est Philippe Juvin.
C'est Philippe Juvin.
Il a fini par évoquer en réalité les Lumières et voilà.
Oh, il s'est rattrapé, pardon, mais il a ramé,
j'ai
regardé. Et il a dit à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, vous-même, Sonia Mabrouk, vous aviez l'air étonnée et choquée de ses propos et vous lui avez fait répéter. Il a dit à plusieurs reprises oui, nous sommes une civilisation supérieure. Moi, je considère que la notion de dire nous sommes une civilisation supérieure est problématique, à mon sens, d'une part. Vous avez aussi une candidate, Valérie Pécresse, qui a dit que le Mali était, je cite, un pays à problème et qu'elle ne voudrait plus accueillir de Maliens, ni de travailleurs, ni d'étudiants qui viendraient vouloir faire leurs études en France, justement, pour apprendre les Lumières, etc. Voilà, ce sont quelques extraits choisis de propos qui, moi, m'ont choqué pendant ce débat. Oui.
Mais est-ce qu'il y a eu des propositions que vous entendez, par exemple, sur l'aspect de la sécurité, mise en place des peines courtes, de courte durée, des différences territoriales pour les peines? Ça, c'est Valérie Pécresse. Peine automatique, minimum pour les agressions de policiers. Est-ce que cela a un sens?
Non, il y avait des fausses bonnes idées. Quand j'ai entendu, je ne sais plus quel candidat, un candidat a dit il faut faire des courtes peines de prison et maintenant faire effectuer les peines de prison, y compris pour quelques semaines, parce que ça leur donnera un exemple. Ben, non, on sait très bien que le passage par la prison a un sens, et le fait de dire maintenant, même pour une semaine, on va envoyer un jeune en prison,
ça peut être dissuasif, hein, quelques jours.
Je ne suis vraiment pas certaine que ce soit dissuasif. Quelqu'un qui connaît un petit peu la vie des quartiers, comme c'est mon cas, c'est très bien que le fait d'aller en prison est parfois même perçu comme une médaille plutôt que comme quelque chose de dissuasif. Il a été aussi proposé d'aller effectuer les peines de prison à l'étranger. Là aussi, c'est
pour des étrangers délinquants, hein ?
Non, pour des personnes originaires d'autres pays, a-t-il été dit. Une peine qui est prononcée en France, elle est effectuée en France. Il peut y avoir une expulsion qui soit prononcée aussi, mais on a besoin de savoir si les personnes sont vraiment en détention. Si on les renvoie dans un autre pays sur lequel nous n'avons pas le contrôle, nous n'avons aucun moyen de savoir que ces personnes sont en détention. Donc par exemple, une personne radicalisée ou qui a fait l'apologie du terrorisme, on a besoin de la contrôler, et les services de renseignement français ont besoin de pouvoir
donc
savoir où est cette personne.
Donc un délit commis en France doit être évidemment
la peine doit être effectuée
en France
et éventuellement avec une expulsion à la clé, bien sûr.
Par ailleurs, Marlène Schiappa, les candidats LR dénoncent un président candidat en réalité qui va sur leur thème, qui reprend leurs propositions. Alors autant voter pour la droite, disent-ils. C'est l'original et la copie.
Non, je ne crois pas. Je crois au contraire que sur un certain nombre de sujets, on a des candidats comme Michel Barnier ou Xavier Bertrand qui reprennent les éléments de langage du gouvernement. D'ailleurs, vous avez même vous-même interpellé Michel Barnier quand il a parlé d'islamisme radical. Un autre candidat qui a parlé de séparatisme. Xavier Bertrand a dit, par rapport aux policiers, je veux protéger ceux qui nous protègent. Protéger ceux qui nous protègent, c'était le mot d'ordre de la loi Fauvergue, du nom d'un député de la majorité que nous avons voté avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, que nous avons fait voter, et qui vise justement à mieux protéger les policiers. Donc Xavier Bertrand répète ce que dit Gérald Darmanin en moins bien.
Il a été question hier aussi, Marlène Schiappa, de culture, d'identité, d'école, et pas seulement, je tiens à le dire, de
après
ces sujets.
Après 23 heures, alors, manifestement.
On a essayé en tous les cas de tous ces thèmes-là. Vous êtes en charge de la citoyenneté. Le constat partagé hier à droite, c'est qu'il est devenu tabou de parler de culture française, d'y faire référence. Est-ce que c'est aussi votre avis?
Non, absolument pas. Non, je crois que la culture française existe. Et heureusement, c'est une culture que nous célébrons. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'auteurs, d'artistes qui sont récompensés. La culture française est prolifique. Vous avez un film en ce moment, le film de Valérie Le Mercier, qui a beaucoup d'entrées en tout cas. Voilà. Il y a beaucoup de livres en termes de littérature. La France est prolifique.
Donc il y a une culture française, vous avez dit célébrée et à sanctuariser.
Ouais, bien sûr.
C'est pas tabou de le dire.
Bah, en aucun cas, pourquoi ce serait tabou?
Parce qu'il nous a semblé qu'Emmanuel Macron, il y a quelques années, avait parlé en disant qu'il n'y avait pas de culture française. Vous vous en souvenez?
Non, non, je ne crois pas du tout que le président de la République ait dit cela. Au contraire, il y a une culture française et il y a d'autres cultures. Mmh. Et la culture française, elle est aussi mélangée. Il y a des apports, notamment avec la francophonie. On a par exemple de grands auteurs qui ne sont pas des auteurs français, qui sont des auteurs sénégalais ou autres, qui écrivent en français et qui ont un grand succès parce qu'ils ont beaucoup de talent.
Sur le fond, à présent, sanitaire et sécuritaire. En Guadeloupe, on l'a vu, des démantèlements de barrages sont en cours. Malgré tout, c'est encore un calme précaire. Est-ce que la réponse est uniquement sécuritaire? Bien sûr, face au pillage et au blocage, mais plus largement?
Non, en Guadeloupe, la réponse ne peut pas être que sécuritaire. Il y a un certain nombre de problèmes spécifiques à la Guadeloupe. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au-delà des 250 militaires de la gendarmerie et policiers qui sont envoyés par le gouvernement pour rétablir l'ordre, parce qu'elle ne peut pas être que sécuritaire, mais elle est aussi sécuritaire. Au-delà de cela, le Premier ministre Jean Castex reçoit aujourd'hui, avec Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, et Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé, les élus de Guadeloupe à leur demande, justement, pour répondre et trouver des solutions. Et il y a des problèmes économiques.
Mais c'est quoi le motif, le vrai motif, Marlène Schiappa, selon vous, de cette protestation? Est-ce que, selon vous, il y a des syndicats derrière qui sont en train d'instrumentaliser une situation
d'abord,
sanitaire?
D'abord, je veux dire qu'aucune violence n'est admissible. On a parlé de pillage, on a parlé de violence urbaine, c'est évidemment inadmissible. D'ailleurs, il y a d'ores et déjà des interpellations et des gardes à vue de personnes qui ont commis ces actes qui sont évidemment intolérables. Et ensuite, oui, il y a un certain nombre de sujets spécifiques à la Guadeloupe qui doivent être traités et c'est le sens de la réunion convoquée par le Premier ministre.
Martinique, il y a un appel à la grève qui se généralise et j'élargis notre conversation à ce qui se passe en Europe, troisième nid de tension aux Pays-Bas. Est-ce que vous comprenez ces protestations ou est-ce que vous estimez qu'elles n'ont pas du tout lieu d'être?
Non, mais d'abord, je comprends toujours toute forme de protestation, mais là, c'est le fait d'une minorité. En l'occurrence, en Guadeloupe, il était question de protester contre le couvre-feu puisqu'il y a une situation sanitaire difficile, particulièrement difficile en Guadeloupe. Et la question qui se pose en Guadeloupe, c'est comment fait-on? Est-ce que nous avons assez de lits en réanimation dans les hôpitaux au cas où il y ait une vague grave, une nouvelle vague grave de pandémie de Covid-19? Et donc la réponse, elle est aussi sanitaire. Et donc là, tout ça pour dire que les personnes qui protestent en Guadeloupe et qui commettent ces violences disent le faire au nom d'une lutte contre le pass sanitaire. Je pense que ce n'est pas entendable. Le pass sanitaire comme le couvre-feu sont mis en place en Guadeloupe pour mieux protéger la population.
Donc ce n'est pas le vrai combat, c'est-à-dire qu'ils travestissent en réalité la situation.
Ça, je ne le sais pas, c'est à eux de le dire.
C'est ce que vous semblez dire, oui.
C'est à eux de le dire et je pense que la réunion avec Jean Castex permettra de le déterminer.
Bien, dans l'actualité, j'ai noté que la commissaire européenne à l'égalité a reçu, on a vu une image sur les réseaux sociaux, une photo des représentants du FEMISO. Je précise à nos auditeurs que c'est un forum européen de la jeunesse musulmane. J'ai sous les yeux une enquête de Marie exceptionnelle qui a travaillé sur cette association et qui indique que c'est un fauné des frères musulmans. Est-ce que c'est le cas? Et dans ce cas, est-ce que vous condamnez ce qu'a fait cette commissaire européenne à l'égalité?
Oui, ça m'interpelle fortement, notamment pour les éléments que vous venez de partager, mais également parce qu'un petit tour sur les réseaux sociaux de cette organisation permet de voir à quel point ils tiennent des propos agressifs vis-à-vis de la France et vis-à-vis pas uniquement du gouvernement, mais vis-à-vis justement de la culture française que nous évoquions, en blâmant la France et en l'accablant de tous les maux. Donc je suis assez choquée, oui, avec mon collègue Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des affaires européennes, nous avons décidé de saisir Madame la Commissaire afin de l'interroger et qu'elle puisse nous apporter des éléments pour nous dire ce qui l'a amené à recevoir cette organisation et plus largement, quelle est sa position vis-à-vis de cette organisation.
Est-ce que c'est l'entrisme qui se poursuit? Parce que derrière la campagne pro-voile, on se souvient du Conseil de l'Europe qui a fait déjà polémique, c'était cette fédération-là d'associations musulmanes.
Écoutez, je crois que la France a vraiment avancé ces dernières années sur la lutte contre le séparatisme. Jusqu'à 2017, on considérait en France, dans la doctrine, qu'il y avait soit le terrorisme, soit rien.
Mais l'Europe,
et qu'entre les deux, il n'y avait rien.
Quand c'était au sein de la Commission européenne, comme
j'y viens, et justement, le président Emmanuel Macron a décidé de travailler sur le terreau du terrorisme et sur le séparatisme en nommant l'islamisme et justement, y compris en luttant contre ces associations qui sont des faunés, vous le dites très bien, de l'islamisme. Maintenant, l'Europe doit faire ce travail. Et moi, je m'interroge de voir des organisations que nous voulons faire dissoudre en France ou qui sont dissoutes en France, qui vont taper à la porte des bureaux européens pour recevoir de l'argent et des subventions. Nous, en France, nous avons pris nos responsabilités en disant pas un euro d'argent public pour les ennemis de la République. Si vous avez des accointances avec l'islamisme dit radical, eh bien, on ne peut pas vous financer avec l'argent des Français. Maintenant, il faut qu'au niveau de l'Europe, il y ait ce travail qui soit fait. C'est le sens de notre démarche commune avec Clément Beaune.
Bien, Marlène Schiappa, vous qui avez le tweet facile, en tout cas les réactions sur les réseaux sociaux fusent avec vous, vous n'avez pas réagi, je l'ai noté sur ces mêmes réseaux, au propos de l'ex-secrétaire d'État Rahm Hayat, qui venant des États-Unis où elle habite désormais, elle a vécu comme une mini-agression de passer devant la statue de Colbert. Il y a eu un flot de réactions. Mais rien de votre part.
Mais alors d'abord,
c'est un adoubement ?
Non, pas du tout. Je vais vous répondre sur le fond, mais d'abord sur la forme. C'est cette espèce de mythe, parce que pour la première fois, on avait une ministre qui utilisait les réseaux sociaux elle-même, une espèce de mythe que Marlène Schiappa passe sa vie à faire des tweets. Ce n'est pas le cas, et je vous invite à regarder mes réseaux sociaux. Vous verrez qu'en réalité, je réagis assez peu, mais quand je réagis, c'est entendu.
Mais ça m'a étonnée.
Et c'est relayé.
Sur ce sujet-là, je me suis dit, elle va réagir.
Non, ce qui m'a choqué.
Peut-être un micro. Hein,
non, mais ce qui m'interpelle, si vous voulez, c'est la démarche de la part d'une ancienne ministre de critiquer son pays depuis l'étranger. Ça, honnêtement, on parle de micro-agression, c'est ce que Caroline Fourest appelle cette génération offensée. Moi, je suis offensée en tant que ministre et en tant que citoyenne française quand j'ai une ancienne ministre qui, depuis l'étranger, critique mon pays et la manière dont il est organisé. Maintenant, sur le fond, on peut avoir le débat historique Colbert, pas Colbert, etc.
Pas Colbert. Il y a un débat Colbert, pas Colbert.
Non, je le dis en rigolant parce que j'ai regardé là aussi le débat hier soir et j'ai vu que vous avez parlé justement de Colbert, mais ce que je veux dire
par là,
c'est...
Vous avez beaucoup regardé hier soir finalement. Hein.
Ah mais moi je vous regarde Sonia Mabrouk.
Non, mais vous me dites jusqu'à 23h30, c'est
il s'est passé des choses
du débat.
En deux
mais
heures.
Sur le fond, est-ce que vous considérez que cette théorie Marlène Schiappa, ou idéologie selon certains, de la cancel culture, de l'effacement de la culture, du déboulonnage du statut, c'est une minorité, ou alors au contraire que ça peut devenir hégémonique en France?
Non, mais moi je crois qu'on ne peut pas arracher des pages de livres d'histoire de France. Je pense qu'il convient de regarder notre histoire en face. Et regarder notre histoire en face, ça veut dire être fier des grandeurs de la France, mais ça veut dire regarder aussi les parts d'ombre de notre histoire, y compris l'impact que cela a pu avoir. Ensuite, on a parlé beaucoup de Colbert, on a aussi beaucoup parlé de Napoléon. Moi, vous savez que je suis parisienne, je suis née à Paris, mais je suis d'origine corse, mon père est corse, et je vais régulièrement à Ajaccio où nous célébrons les anniversaires de Napoléon Bonaparte. Ça ne veut pas dire que l'on adhère à toute l'idéologie portée à l'époque par Napoléon Bonaparte. Je crois qu'il faut aussi remettre les choses dans leur contexte, y compris dans leur contexte historique, et l'histoire de France et la culture française que l'on évoquait précédemment, elle est faite aussi de tout cela.
Alors vous parlez de célébration plus largement, vous lancez un prix de la laïcité qui sera remis le 9 décembre à l'occasion de la première journée nationale de la laïcité. Pourquoi un tel prix et que récompense-t-il?
Alors c'est un prix qui est marrainé par l'essayiste Rachel Kahn, et nous sommes très fiers qu'elle ait accepté d'être la marraine de ce prix. Et ce prix, il sera doté de 50 000 euros. Il y a un prix qui existait précédemment, mais nous avons multiplié par 10 le budget du prix de la laïcité. Et l'idée pour nous, c'est d'abord, un, de valoriser des initiatives, parce qu'on parle beaucoup des atteintes à la laïcité, et c'est normal. Il y a aussi beaucoup de gens qui se démènent partout dans les territoires, des associations, des enseignants, des médias, y compris des médias locaux, qui essayent de prendre des initiatives pour défendre la laïcité. Et nous voulons les valoriser, les relayer, les mettre en lumière, et aussi les financer. L'argent, c'est le nerf de la guerre. On parlait tout à l'heure de l'argent que réussissent à obtenir souvent les organisations islamistes. Eh bien, je crois qu'il est fondamental de réserver l'argent public à des initiatives qui défendent la laïcité.
Mais vous entendez, Marlène Schiappa, ce que certains vont dire, que vous parlez encore de laïcité, que vous la mettez en avant, que c'est une forme, selon certains, je dis bien, de racisme contre les musulmans que vous êtes en train de propager.
Alors moi, je m'inscris en faux face à ces attaques. Moi, je défends la laïcité. La laïcité, c'est un principe juridique, philosophique et politique qui est fondé sur la séparation des églises et de l'État, mais aussi sur la liberté de conscience et la liberté de culte. La laïcité n'est jamais une arme contre les religions. C'est une arme pour donner un cadre et permettre à chacun d'exercer sa liberté de conscience et son droit de croire ou de ne pas croire.
On va conclure sur la campagne. Président, candidat, disent les opposants. Est-ce que le vote féminin existe pour vous?
Je crois pas du tout. Non, je crois pas. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre d'études qui ont montré qu'il n'y a pas de vote des femmes, comme il n'y a pas de vote musulman, comme il n'y a pas de vote juif. Chacun et chaque citoyen vote en son âme et conscience. Et les femmes votent pour des candidats ou des candidates
pourtant,
très différents.
Pourtant, je vous ai entendu inciter les femmes à regarder les projets de la droite extrême. Donc, vous incitez à une forme de vote féminin, vous-même.
Pas du tout. J'ai demandé à ce qu'on regarde les projets pour les droits des femmes, pour ou contre les droits des femmes. Il y a des hommes qui sont, au nom de l'universalisme et du féminisme, il y a d'ailleurs beaucoup d'hommes qui sont engagés pour pour défendre mieux les droits des femmes. Et vous avez des femmes qui ne défendent pas les droits des femmes. Prenez par exemple les votes de Marine Le Pen et du Rassemblement National. Dans quelques instances dans lesquelles elle siège,
elle s'en défend.
Oui, mais sauf que les faits sont là. Elle peut s'en défendre. Les rares fois où elle vient à l'Assemblée nationale, ça n'est pas pour défendre les droits des femmes. Emmanuel Ménard, qui est député apparenté Rassemblement National, année après année, propose purement et simplement de supprimer le budget des droits des femmes, ni plus ni moins. Voilà, le mérite de la constance. Mais en tout cas, c'est une attaque vis-à-vis des droits des femmes. Au Parlement européen, d'ailleurs, Marine Le Pen, à chaque fois, vote contre les droits des femmes.
La campagne est largement démarrée. On l'entend dès ce matin avec vous. Merci, Marlène Schiappa.
Merci à vous.
D'avoir été notre invitée ce matin.
Merci, bonne journée.